Bienvenue sur cette émission Dig Dig Diggers, plateau en direct des bars en transe et surtout en direct de Blind Spot, magnifique disquaire situé au 36 rue Poulain du Parc. C'est d'ici qu'on animera ce plateau de 16h à 19h, 3h de direct. Pour vous accompagner avec vous, Enora, Guirec et moi-même, Vincent, mais pas que, puisque nos chers animateurs de l'ensemble des radios Ferrarock vont aller arpenter et parcourir la ville de Rennes et des différents lieux dans lesquels vous pourrez trouver des concerts, des bars en transe, pour vous proposer de chouettes interviews.
Salut Vincent et salut aux auditeurs des radios Ferrarock. Au programme de cette émission, on va vous faire vivre bien évidemment ce festival des bars en transe avec sur le plateau notamment It Girls qui faisait partie du partenariat des coups de cœur, des albums coup de cœur des radios Ferrarock cette semaine. Et parmi aussi ces albums coup de cœur, il y a Mixtros qui lui ne fait pas partie de la programmation des bars en transe cette année, mais qui en faisait partie l'année dernière.
Ouais, absolument.
Mixtros d'ici quelques minutes hein, qui viendra répondre aux questions de Aurélie.
Absolument. Et qui est, ouais, tu l'as dit, un album coup de cœur de la Ferrarock toute cette semaine que vous pouvez retrouver sur les ondes des différentes radios. Radio qu'on va remercier quand même rapidement, hein, qui nous accompagne et qui nous rediffuse. Il y a Radio 666, Bob FM à Limoges, Canal B à Rennes, bien évidemment. On a Croc à Vienne, Distorsion Auch, Equinox à Namur en Belgique, FMR à Toulouse, Fréquence Mutine à Brest, JetFM à Nantes, L'Écho des Garrigues à Montpellier, Westrack au Havre, Radio Active
salut à Saint-Brieuc
évidemment, Radio Active à Toulon, Radio Alpa au Mans, Radio Bella à Esperanza, Radio Béton à Tours évidemment, Radio Coteau à Tarbes, Radio Dio à Saint-Etienne, Méga à Valence et PFM à Arras, Primitive à Reims, Pulsa à Alençon, Rage à Nîmes, RCV à Lille, RPG à Guéret et Sol FM à Lyon.
C'est bon, tout le monde est là.
Une belle liste.
C'est ça la magie de la Ferrarock, ce réseau des meilleures radios associatives de France. Donc d'ici quelques instants, Mixtros au micro d'Aurélie. Vous pourrez aussi vivre un live de Georges K. Depuis les studios de Canal B, on aura aussi Lila, Edja, Télépagaï, Théa, Enzeg. TEDAC, on a un plateau en direct du Tiana, je sais pas si tu connais ce bar,
oui,
Vincent.
Oui, alors je n'y suis jamais allé mais je le connais de nom.
C'est le bar des Cool Kids à Rennes et je vous le rappelle, on est en direct de Blind Spot, qui est lui le disquaire des Cool Kids.
Ouais, et c'est vrai que c'est un cadre quand même super pour faire, ouais. Pour faire une émission radio, hein. Il y a des disques partout, je pense qu'on vous reparlera de Blind Spot tout au long de cette émission. Je vois
Mixtros en train de fouiner dans les bacs en face de moi, c'est assez cool de pouvoir vivre ça en direct des bars en transe jusqu'à 19h.
Bah c'est vrai que ça fait quand même un chouette lieu, plein d'idées en fait, de questions, d'interviews, de sujets à débattre. On est entouré de chouettes disques et on est en public, donc n'hésitez pas à passer si vous voulez nous rejoindre. Je pense qu'on va pouvoir laisser peut-être la place à Aurélie pour qu'elle puisse faire son interview de Mixtros, qui vont s'installer tranquillement sur ce plateau en direct de Blind Spot pour ce festival des bars en transe jusqu'à samedi. Hein, on était en direct hier déjà de plein de jolis lieux et je vois Aurélie qui s'installe. Comment ça va Aurélie? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu nous entends bien déjà?
Ouais, je vous entends très bien et ça va très bien moi aussi. J'étais un petit peu absorbée par tous les vinyles qu'il y a autour de nous. C'est vraiment chouette de pouvoir aller diguer un petit peu en même temps qu'on travaille. C'est plutôt cool. Et ce week-end à Rennes, c'est aussi un moment de découverte et de rencontre pour les artistes. Et dans notre marathon bar en transe, on profite du crochet par Rennes de l'artiste Arthur B. Gillette, Mixtros à la scène. Découverte de la semaine sur la Ferrarock. Donc pour te rencontrer, bonjour.
Salut, bonjour.
Alors, pour expliquer un petit peu à nos auditeurs et auditrices, on va rappeler que tu es un des fondateurs et compositeurs du groupe Moriarty, mais également bassiste et compositeur du groupe Astérotypy, rien que ça.
Ouais.
En quoi c'est différent de composer pour soi?
Ah, est-ce que je compose, tu veux dire avec Mixtros?
Avec Mixtros.
En fait, je fais aussi de la musique de film, et là aussi de la musique pour le théâtre, pour le ciné, pour aussi la danse. Donc, en fait, à chaque fois, c'est une façon différente de faire les choses, ça c'est sûr. Et on passe d'un endroit, Moriarty, c'était collectif, avec quand même une prédominance de Rosemary, moi et Stéphane, qui était le bassiste, enfin qui est toujours d'ailleurs. Et puis ensuite à Stéréotypie, on est encore dans un autre mode de collectif avec des chanteurs qui sont en situation de handicap, donc qui écrivent des textes, et avec quatre musiciens on fait la musique, donc c'était une autre façon de voir. La musique de film, c'est vraiment au service d'un autre projet où le théâtre et la danse. Et là, effectivement, c'est des paroles que moi j'écris et que je chante surtout. C'est ça le truc, je pense. Évidemment, c'est. Je crois que je suis plus dur avec moi-même. Je pense que quand c'est quelque chose de collectif, on est. On repose aussi un peu sur les autres, les uns les autres. Et là, c'est vraiment un projet que je porte, quoi, des paroles jusqu'à la musique. Alors évidemment, je m'entoure de musiciens et de musiciennes fabuleuses et qui savent, et qui me connaissent très bien d'ailleurs, et qui portent la musique et qui savent comment je travaille. Je suis beaucoup plus désordonné aussi pour moi-même. Ça, c'est toujours agaçant, c'est que quand on fait pour les autres, finalement, on est plus organisé, je trouve. Et puis là, quand c'est soi-même, on rentre dans notre tête. Et puis des fois, c'est compliqué de sortir des choses simples, ouais.
Puis il y a peut-être quelque chose aussi d'autre, c'est que quand on compose pour d'autres personnes, notamment pour la danse, le théâtre, on a des contraintes. Et ces contraintes-là, on ne les a pas du tout quand on compose pour soi.
Exactement, c'est-à-dire qu'il y a, c'est comme des histoires de casquettes. D'ailleurs, j'ai trois casquettes parce que là, donc je compose pour moi, je suis l'artiste. Ensuite, je mets la casquette DA, on va dire, donc qui regarde et qui écoute ce qu'est en train de faire cet artiste. Et ensuite, comme c'est en plus tous les groupes dont tu as parlé, c'est sur mon label avec les Moriarty. Donc après, je mets la casquette label, donc tout ce qui est argent, qu'est-ce qu'on peut se permettre. Parce que moi, je voudrais bien travailler avec des musiciens hyper longtemps pour toujours, mais ensuite, il y a des questions dessous. Donc c'est trois casquettes, quoi. Et ouais, c'est vraiment pas simple. Et en même temps, il y a un truc qui est je sais pas, c'est très fort aussi de chanter ces paroles et d'aller jusqu'au bout de ce processus. C'est quelque chose qui est intense aussi.
Alors avant de revenir sur ce processus, je rebondis sur cette idée de casquette parce que avec Mixtros, tu ne joues pas non plus sous ton vrai nom.
Oui.
Est-ce que c'est une manière de pouvoir te créer un personnage et peut-être d'éviter de te montrer trop au public ?
Surtout qu'en ce moment, on fait des concerts dans l'obscurité absolue. Mais ça, on pourra en parler après. Mais c'est sûr que les pseudonymes, moi, j'ai toujours aimé. D'ailleurs, à l'époque, on s'appelait tous Moriarty, de nom de famille, dans Moriarty. À Stéréotypie, en général, c'est collectif et on ne met pas trop nos noms en avant. Donc je crois que c'est quelque chose qui est assez commun à pas mal de musiciens. C'est simplement de prendre de la distance avec... mais c'est sûr que je parle pas de moi quand j'écris des chansons, d'une certaine façon. J'invente aussi des histoires et je récupère des contes d'ici ou là, des gens que je rencontre, presque comme un ou une romancière, quoi.
Et des contes que tu as pu glaner sur ton premier album Souther Wave aux États-Unis, puisque tu y as passé 6 mois, en espèce de road trip un peu délirant, je pense, où tu as pu aller à la rencontre des gens et puis de leur histoire. C'était comment ?
Oui, en fait, je suis, pour les gens qui ne me connaissent pas, mes parents sont des États-Unis. Donc, je suis né en France, mais mes parents sont américains. Donc, c'est mon pays aussi. Mais je suis allé dans un endroit que je ne connaissais pas. Mes parents sont de la côte est et je suis allé dans le centre, quoi, le Midwest, voilà. Donc de Chicago, même plus au nord du Minnesota, qui est les sources du Mississippi, jusqu'à la Nouvelle-Orléans, tout au sud. Et évidemment, voilà, c'est quand même un autre. Bon, c'est un continent, bien sûr. Et puis c'est une grande variété de peuples. Je suis allé dans des réserves indiennes. Je suis allé dans des communautés afro-américaines. Je suis allé voir, disons, des communautés qui n'ont pas trop la parole souvent.
Oui.
Et donc, j'ai passé beaucoup de temps et tellement de façons de voir différentes le monde. Je m'en souviens par exemple d'une universitaire. Donc les universités, par exemple, dans une université Navajo, qui était un petit crochet un peu plus vers l'ouest. En fait, toutes les salles sont en rond, en cercle. Donc quand on a, moi j'ai quand même fait mes études en France où tout est un peu hiérarchique. Et là, oui, tout d'un coup, on se retrouve, c'était un choc par exemple de se retrouver dans une salle de classe universitaire avec beaucoup, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Et tout le monde est en cercle, il n'y a plus de hiérarchie par exemple. Et puis elle me dit aussi, on était assis comme ça sur une chaise, je lui faisais un entretien parce que je faisais des recherches sur le thème du coyote, l'animal, le coyote qui est sujet de beaucoup de contes. Et puis elle me dit, tu vois la chaise sur laquelle tu es, elle existe, elle a une personnalité, si tu t'assois fort dessus, si tu la pousses, elle aura mal. Et puis ensuite, j'ai accumulé ça. Et puis plus tard, j'ai regardé des choses sur la mécanique quantique. Puis en fait, finalement, scientifiquement, ça se tient complètement comme théorie, finalement, qu'on est fait de la même chose. Le micro que je porte là, la bonnette, tes lunettes, les miennes, nos corps, c'est la même matière en fait, c'est juste organisé différemment. Donc c'est des sortes d'histoires comme ça qui se sont déroulées. Et après, j'ai écrit le disque Southern Wave.
Et de quoi tu parles dans Southern Wave ?
Je parle notamment de ces rencontres. Je parle pas mal de témoignages sonores parce que j'adore faire de la radio. Je fais de la radio aussi par ailleurs. Et j'ai fait vachement d'enregistrements sonores qui sont sur le disque. Et ça parle de. C'est des petits, comme c'est des sortes de petites. Des histoires que m'ont raconté des inconnus et qui seront des gens qu'on rencontre dans la rue. Je me rappelle de quelqu'un que j'ai rencontré à Chicago à un croisement. C'était en hiver, il faisait très froid et puis on a commencé à parler et puis je l'ai enregistré pendant une heure. Et je sais pas où il. Je pense qu'il n'avait pas vraiment de maison, mais il avait fait l'université. Il m'a parlé de beaucoup de choses, une espèce de poème philosophique en fait. Donc lui, il est dans le disque, par exemple. Et puis il y a d'autres personnes aussi. Un jeune autochtone du nord du Minnesota qui racontait. Qu'il était prêt au fond à prendre les armes, quoi. À tel point la situation était dramatique. Donc tout ça se retrouve dans le disque. Et puis j'en écris des chansons aussi. Et puis des chansons d'amour aussi plus personnelles, quoi. Mais tout ça a été mélangé. Ouais. Mais l'idée de Southern Wave, c'était aussi un disque qui soit à la moitié la musique du sud entre guillemets et wave, le côté plus froid anglais, quoi.
Et puis cette tradition américaine un peu aussi d'aller raconter les histoires des gens qu'on rencontre. T'es passé dans le Minnesota, je pense évidemment à Bob Dylan, et c'est un petit peu ça que t'as voulu faire aussi finalement.
Oui, puisqu'il vient de Duluth, Minnesota, et je suis allé à Duluth faire un petit pèlerinage quand même. Et c'est incroyable qu'il ait réussi à sortir de là, parce que c'est loin, surtout à l'époque. Écoute, ça ressemble à ça ressemble à pas grand-chose. Et il se passe, c'est très froid quoi en hiver quoi. C'était vraiment impressionnant. Et je sais pas comment tu sors de là. Mais c'est pour ça que je pense qu'il s'est fabriqué aussi une vie, une histoire. Il a inventé plein d'histoires. Hein. On sait qu'il a raconté un peu n'importe quoi. Il a été mythomane quoi. Il s'est raconté lui-même une histoire, je pense, pour pouvoir partir de là. Ouais.
On place des techniques pour réussir à se créer une carapace. Toi, tu prends un autre nom que ton nom et Bob Dylan, il est mythomane.
Ouais, peut-être. Ceci dit, c'est pas mythomane. Il a écrit une chanson en partie sur ma maman. Qu'il a rencontré en 63 à la fac, dans une tournée des facs, voilà. Girl from the North Country.
Oh waouh!
Voilà.
Incroyable!
En fait, elle lui a prêté un manteau en fourrure. En fait, elle s'occupait des. Tu sais, aux États-Unis, il y a vachement une tournée universitaire, donc les gens vont dans les facs, elle est toujours aujourd'hui, hein, les groupes. Et donc, il est arrivé, il y avait une tempête de neige, et puis il était toujours en chemise, hein, vraiment tout gringalet, puis elle avait un manteau comme ça en fourrure, et il a emprunté le manteau, enfin, il a essayé de la draguer un peu, mais elle a refusé. Qui était même assez insistant. Mais il a récupéré le manteau quand même, et puis il a écrit une chanson sur la tempête de neige et ce manteau. Voilà.
Est-ce que ça a joué dans ta mythologie personnelle pour devenir un artiste ?
Je pense que d'entendre cette histoire, la guitare que j'ai avec qui, tu vois, c'est une personne pour moi qui est en bas là, mais dans le sous-sol de Blind Spot. La guitare que j'ai, c'était la guitare elle était à John Baez. Donc oui, je pense que ça, je crois que c'est d'avoir ces reliques, c'est comme des trucs un peu religieux, quoi.
Mais que de révélations à Blind Spot aujourd'hui.
Et j'ai acheté plein de trucs depuis des guitares, mais je joue toujours à cette guitare qui manque une corde parce que j'arrive pas à jouer autre chose. Julien qui est là. L'ingé son qui a enregistré le disque et mon dernier disque là et avec qui on a travaillé, on a enregistré avec cette guitare et puis on n'a pas trouvé mieux quoi.
Et bien justement, tu fais une transition parfaite, hein, ça s'entend que tu fais de la radio quand même. Ton nouvel album In The Dark est sorti en novembre 2024, donc c'est tout nouveau, tout beau. Et donc, il a été enregistré dans deux greniers à Douarnenez, puisque tu habites à Douarnenez désormais. Et donc Julien, qui est juste à côté de nous, accroupi et qui nous écoute et prendra peut-être le micro tout à l'heure, t'a aidé à l'enregistrer. Donc j'ai aussi le vinyle entre les mains. Et donc il y a une face qui a été enregistrée chez toi et une face qui a été enregistrée chez Julien. Comment ça s'est passé tout ça ?
Ça s'est passé de façon, comme je travaille, enfin Julien peut-être vous le racontera, mais très intuitivement. en avance au fur et à mesure et on voit ce qui se passe. Il y a une face qui est enregistrée en live, donc en direct. On a filmé en même temps. Donc ça c'est sur internet et j'ai dit à Julien ouais on va faire un petit truc et puis ça s'est transformé en disque finalement, ce qu'on n'avait pas forcément prévu à l'origine, mais vraiment dans les conditions du live. Coucou Iris, coucou Rose, pardon, il y a des coucou et ça s'est fait voilà, de façon pas du tout prévue, et puis finalement on était content de ce qu'on avait fait. On était cinq, il y avait une section cordes, donc violoncelle et violon, avec un piano banjo, moi je faisais la guitare, il y avait un batteur et un bassiste, on était six en fait. Et puis l'autre face, ça s'est fait plus piste à piste avec, dans les conditions du live d'abord, et ensuite on a rajouté des choses dans son grenier à lui. La première fois c'était dans mon grenier, la deuxième fois c'est dans son grenier qui est aussi sa cuisine. Wow, sachant qu'avec Moriarty, dont Rosemary vient d'arriver dans le magasin, on avait aussi enregistré dans une cuisine. On a fait pas mal de morceaux, on a composé pas mal de morceaux dans des cuisines. Donc il y a un truc entre la nourriture et la musique qui est quand même proche, quoi.
Et puis les cuisines, ça sonne souvent un peu différent aussi avec les carreaux, le son.
Ah non, là il n'y a pas de carreaux chez Julien, mais par contre on peut vite manger une petite pasta avec une petite sauce tomate facilement entre deux prises pour se donner un peu de pêche.
Et donc un nouvel album sorti le mois dernier l'inspiration est un peu différente, on est sur quelque chose d'un peu plus sombre, mais toujours aussi habité.
Bah ça, je sais pas si c'est habité.
Ouais, je trouve.
C'est plus sombre parce que je crois qu'on était dans un état plus calme. Je sais pas pourquoi. C'est le monde, je sais pas.
En tout cas, moi, j'invite vraiment nos auditeurs et auditrices à écouter In The Dark et à se le procurer. Parce que j'ai écouté ça ce matin et j'ai trouvé ça particulièrement beau. Ça allait bien avec le temps qu'il fait, l'espèce de truc un peu éthéré du mois de décembre. Mmh. C'est très, très beau. Merci beaucoup,
De rien.
Nick Strauss, d'être venu répondre à nos questions ici à Blind Spot. Et on va se quitter en écoutant un des titres, justement, de l'album In The Dark. Ça s'appelle Dance for the Dead.
Ah, c'est mon préféré. At the forest edge, shadow moves you, eyes that look for true, modern animal. Beast, oh, see the signs of times and fine lines. Forgive me if I don't always see your pain. Forgive me if sometimes I live in vain. So long, sun. So long, wild waves of the west coast. Forgive me if this time alone I'm moving on. Time will come, we'll meet the judge. Trees be burned like dead, dressed up to dance. Like dead, dressed up to dance. Dance for the dead. Dance for the dead. All in my head, dance for the dead. All in my head, dance for the dead. It's what Nixis said, dance for the dead. All in my head.
shelter was born, where friends could mourn. You could leave the pain at the forest edge. Yeah, we read our hands. They were like our land. Every root and every low, every branch and every stone. You knew more, way more than love alone. So long summer songs, lynxes, bears and fawns. Forgive me if sometimes we all lived in vain. Dance for the dead, it's me in my head. Dance for the dead, all in my head. Dance for the dead, what Nixie said. Dance for the dead, it's in your head.
Mixtros, à l'instant, c'était le morceau Dance for the Dead, cet extrait de cet album coup de cœur des radios Ferrarock, In the Dark. Et à l'instant, bah, vous venez d'entendre justement l'interview de Mixtros depuis Blind Spot en direct à Rennes au Bar en Transe et aussi en direct depuis Canal B. Comment ça va les studios? Est-ce que vous m'entendez?
Mais oui, on t'entend direct.
Ah, Romain, bon, ça va Romain?
Mais ça va et toi?
Oui, super.
On est piégé ici, on est un petit peu piégé. Ouais. Et c'est vrai qu'on aimerait avoir un peu l'univers où vous êtes. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui se passe?
Bah en ce moment même, je vois plein de gens diguer des disques dans les bacs. Et puis il y a les Cramps qui sont en train de retentir dans le disquaire. C'est plus les Cramps. Et j'ai à côté de moi sur la banquette de Blindspot. Et bah Fred de Blindspot, salut.
Salut.
Tu vas bien?
Oui, très.
J'ai l'impression que ce week-end là, c'est un peu la fête pour vous.
Oui,
aussi.
Oui, c'est un week-end qu'on attend tous les ans avec grande impatience parce que il y a une émulation dans la ville qu'on kiffe vraiment et puis il y a plein de gens de passage au magasin, donc ouais, on est très heureux, fatigués mais heureux.
C'est assez dingue, il est blindé le disque. Ah, alors
franchement, c'est rien.
Ça va? Ça peut être
ouais, pire. Le samedi c'est pire, mais ah ouais, on aime ça et non, c'est cool. Mais vous êtes nombreux aussi.
Ouais, c'est vrai qu'on est nombreux sur ce plateau en direct du Disquaire Blindspot. À ce qui paraît, il faut venir le jeudi ou le vendredi à Blindspot, autrement, et ben justement, tout le monde pique les bonnes pépites.
C'est vrai que le magasin est relativement prêt pour le mercredi jeudi, et si tu arrives le samedi, bah ouais, toutes les belles pièces sont un peu parties, mais il reste tellement plein de choses.
Vous avez des bacs dédiés au transmusical au bar en trans. Ouais. Vous faites pas de séance de dédicace, il y a des artistes, je suppose, qu'ils
doivent
passer de temps en temps.
Ça nous est déjà arrivé de le faire pour des sorties de bouquins ou pour mais non, c'est, je te dis, il y a tellement de monde qui passe que en fait ouais, ça prend tellement de temps et de place qu'on,
oui,
parfois
bah oui,
on le
vrai,
fait
ouais,
pas quoi. Donc
et pourtant il est grand ce disquaire. Est-ce que tu
ouais,
peux
mais pas
passer Est-ce que tu peux le resituer un peu dans Rennes? Je sais que pour moi
ouais, alors tu t'adresses à la personne qui a un sens de l'orientation pitoyable, mais on est situé pas loin de la place de Bretagne, derrière le boulevard de la Liberté. À 500 mètres du Liberté, quelque chose comme ça quoi.
Moi j'ai l'impression que Blindspot c'est un des meilleurs disquaires en Bretagne. Ça fait combien de temps que vous existez?
C'est gentil, on est dans la 16e année là.
16e année.
Ouais.
Question un peu pourrave mais quand même intéressante.
Non, il n'y a que des réponses pourraves.
Il n'y a que des réponses, c'est pas mal. Combien il y a de disques ici?
Ah ouais, question de... Non, en fait je sais pas, un truc comme 5, entre 5 et 10 000, on n'a jamais compté. Et on comptera jamais, je pense.
Oui, je pense. Ouais. Et d'ailleurs, j'adore comment vous mettez en avant certains disques. Il y a des comment ça s'appelle, des intercalaires.
Ouais, des bacs, des classements.
Ouais. Avec notamment meilleurs morceaux du monde, bien évidemment, avec une sélection qui est vraiment large et cool. Il y a aussi pour danser nu dans ton salon.
Ouais.
Vous avez mis voilà, par exemple, dans ce bac.
Oui, parce que c'est dès que tu veux danser, dès qu'un disque est un peu à caractère dansant et taillé pour le dance floor, on le met dans ce bac là. Après, entre nous, on peut danser nu sur n'importe quelle musique.
C'est vrai, ouais.
Hein, toi-même, tu sais.
Oui, mais on va éviter aujourd'hui dans le disquaire qui est un lieu public. Il y a aussi cet intercalaire pour fumer des clopes seul dans le noir.
Ouais, c'est quand t'es triste et que t'as envie de pleurer. Alors tu te mets un disque triste qui fait pleurer et puis voilà.
Il y avait Demi, par exemple, de Portishead.
Ouais, on peut Joy Division, tous les trucs un peu darkos. En fait, c'est un jour où on s'ennuyait terriblement, il y avait personne. Et c'est vrai que le classement musical, c'est toujours hyper sérieux chez les disquaires. Et ce jour-là, on avait envie de s'amuser et ça a donné ça. Et on est resté sobre parce qu'on aurait pu aller plus loin. Voilà.
C'est vraiment génial de pouvoir vivre ça en ce moment. Je vois qu'à Mixtros, il y a sa pote, la chanteuse de Moriarty, je sais plus comment elle s'appelle, qui est là avec
Marie-Rose.
Nous. Marie-Rose de Moriarty, qui est aussi dans ce disquaire, qui vient soutenir son pote. Alors là, je peux vous dire qu'on est les deux seuls à bosser, à faire l'interview. Ici, tous les gens de la Ferraroc, ils sont le nez dans les bacs à disques, là.
Ils ont raison, ils ont raison. Nous, on est là pour envoyer du sourire, du rêve et de l'espoir.
Ça, c'est bien dit. Tu vas aller voir des concerts, toi, au bar en trans ce week-end?
Pas trop.
Pas le temps.
Je t'avoue que j'ai beaucoup fait ça quand j'étais plus jeune, et depuis que j'ai le magasin et tout ça, je mange tellement de musique. On me parle tout le temps du magasin quand je sors que j'ai. À part certains concerts, Dis-moi que je suis un vieux con, vas-y,
t'as bien le droit de te poser.
Mais non,
aussi.
Ça m'arrive de sortir et de faire encore des concerts, mais là, on est flingué au magasin et on le fait pas trop.
Je sais pas combien de minutes il nous reste, mais comme on est dans un disquaire, on va parler d'un disque, celui que vous passiez juste avant. Le disque en question, c'est Bobby Ramone.
Alors ouais. C'est un mash-up improbable entre Bob Marley et les Ramones, et ça donne
C'est génial.
Génial, comme tu l'as dit.
Bah voilà, vous pouvez vous le procurer à Blind Spot, d'où nous sommes en direct. On vous fait vivre les bars en transe toute cette semaine, enfin tout ce week-end en tout cas, jusqu'à 19h. Ici, je vous le rappelle, restez bien branchés, puisque d'ici quelques minutes, on aura Krenoka en interview avec Elena. On aura aussi Lila Edja depuis le café Tiana. C'est quoi en parlant de bar, c'est quoi ton bar préf?
Alors tu t'adresses toujours à la mauvaise personne, parce que en fait
les tontons flingueurs.
Tu sais quoi, je vais le dire à tout le monde. Je viens du milieu de la free party, la fête dans les champs et dans des espaces totalement ouverts, et je t'avoue que les endroits confinés et les bars, en fait, j'ai jamais trop kiffé ça.
Ouais,
mais j'embrasse tous les gens qui tiennent des bars et qui adorent les bars.
Ouais. Merci en tout cas, Fred. Je te souhaite une bonne journée et un bon week-end. Travaille bien.
Salut.
Ouais, ciao. On est toujours en direct du disquaire Blind Spot et on va voir si ça bosse à Canal B. Vous m'entendez, Canal B?
Ouais. Mais oui, on t'entend avec Arthur, on vous entend.
On t'entend.
J'adore cette technologie-là de pouvoir faire plein de plateaux dans Touraine. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler le programme qui va suivre?
Eh ben, ça sera le check dans quelques instants. Mais avant, Arthur, si tu veux bien, Arthur, tu as des choses à nous dire.
Ouais, je voulais vous parler un petit peu de Georges K, qu'on était censé recevoir en interview, mais un petit problème organisationnel nous l'a empêché. Mais donc, je vais vous en parler un petit peu quand même avant qu'on s'écoute un morceau pour découvrir ça. Georges K, donc, est fait un mix de rap, slam, pop sur des sonorités tantôt synthétiques, tantôt acoustiques. Elle vient de Paris et c'est là-bas qu'elle a commencé, dans des open mic de slam. Elle parle de plein de choses différentes de façon assez descriptive, mais touchante. Elle a des rêves de Mac Miller après Princesse Mononoke, donc moi j'aime beaucoup, tout ça en passant par du David Bowie. Elle joue ce soir à 22h au Théâtre de la Parcheminerie. Je vous propose de découvrir ça avec son titre 2000 âmes, qui est sorti cette année.
Sur la radio La Ferraroc.
On a dansé toute la nuit, entouré de 2000 âmes. Aucune ne s'était trouvée comme les deux nôtres parmi les hommes. On a brisé la surface de l'eau qui dort au soleil. Et nos corps avaient sommeillé, nos cœurs avaient la place. Quand y'a la trouille à nos portes, à deux on est sourd au tambour. La clameur que le vent transporte nous parvient depuis la tour. Y'a pas de toiture, c'est le drive-in des étoiles. D'ici on voit les bateaux faire si loin des murailles. Je préfère me voir dans ton regard que dans le miroir. Passe devant, j'assure l'arrière dans le couloir. Et t'étais où ton ami du temps? J'osais plus chercher en vain. Je croyais que c'était pas mon fort. Et t'étais où? J'en pouvais plus d'attendre sur mon plan. Dans un coin qui brille un petit peu plus fort. On en a passé des nuits entourés de 2000 âmes. Aucune ne s'additionnait comme les deux nôtres parmi les hommes. On a pris les routes larges, coffre plein, musique à fond. Ni Mac Miller et Arlo Parks, ni 20 fois la même chanson. Quand y'a le jour qui revient, qu'il se rapproche l'horizon, je pose mon front contre le tien, viens, on remet la même chanson. Y'a pas de rature, ainsi naissent les montagnes. De jeunes ravins dont les cassures se rejoignent. Je préfère me voir dans ton regard que dans le miroir. Passe devant, j'assure l'arrière dans le couloir. Hey, t'étais où ton ami du temps? J'osais plus chercher en vain. Je croyais que c'était pas mon fort. Hey, t'étais où? J'en pouvais plus t'attendre sur mon plan. Dans un coin qui brille un petit peu plus fort. On a dansé toute la nuit, entouré de 2000 âmes. Aucune ne s'était trouvée comme les deux nôtres parmi les hommes.
On est toujours en direct du Blind Spot Disquaire Rennais. On est au deuxième jour des Bars en Transe. Et m'a rejoint sur ce plateau improvisé au Blind Spot, Krenoka et Elena.
Salut.
Donc Elena, tu vas nous faire l'interview de Krenoka. Je te laisse
tout à fait
la place.
Et ben du coup, bonjour déjà Krenoka.
Salut Elena.
Pour les gens qui te découvrent complètement, comment décrirais-tu ton style de musique et comment a-t-il évolué au fil du temps? Question très large.
Ah oui, et puis c'est une très bonne question parce que effectivement ça a évolué. Aujourd'hui, je pense que je fais de l'électropop, chanter en anglais avec de l'autotune, mais effectivement, j'ai commencé avec de l'expérimental, électro-expérimental. Et je suis passée aussi par du R&B, enfin je suis passée par plein de petits styles différents, j'aime bien explorer. Okay.
Bah justement, j'ai vu que tu étais dans les projets Boys in Lilies et Tevanille. Est-ce que tu trouves qu'on peut entendre l'influence ou l'empreinte musicale de ces groupes dans ta musique aujourd'hui?
Alors Boys in Lilies, c'était un trio électropop avec Laure Bernot qui aujourd'hui est dans Toucan Toucan et Marilou qui aujourd'hui est dans Okelou. Donc on avait quand même quelque chose de très électronique effectivement qui se retrouve aujourd'hui dans Krenoka. Des couleurs harmoniques aussi. Et Tevanille, très très rock avec Valentin de Meule entre autres. Oui, je pense que dans l'énergie qui se retrouve aujourd'hui dans le premier album Edolon, on a un petit peu de Tevanille quand même.
Okay. C'est cool. Alors là, du coup, c'est pour, on est parti très très loin pour parler de ce dernier EP, The Wanderer, A Song for Timothée Chalamet. Comment t'es venue l'idée de sortir un EP de remix d'un son pourquoi ce son-là et est-ce que c'était une évidence pour toi, les personnes qui collaboreraient avec toi pour cet EP?
C'est marrant parce que je viens de voir Robin, bon, qui ne m'entend pas, mais qui vient d'entrer, qui a fait un des remixes, donc c'est drôle de le voir ici.
Ah, je savais pas.
On est
okay.
De tour. Ouais, grave.
Le fameux. En plus, j'ai passé l'EP, donc je vois très
c'est
bien.
C'est vrai, ouais, carrément. Mais effectivement, alors pourquoi ce morceau? Parce que déjà, c'est un morceau, il n'y a pas beaucoup de pistes, donc c'était intéressant d'avoir quelque chose d'assez nu, on va dire, et de laisser suffisamment de place pour les artistes qui auraient envie de faire ce remix, de vraiment redécouvrir ce morceau d'une autre façon. Et puis bon, bah voilà, c'est le morceau pour Timothée, donc c'est rigolo, c'est un morceau qu'on retient, et j'avoue, je le trouve très, enfin, j'aime beaucoup, beaucoup ce morceau, donc voilà. Et les artistes qui ont participé au remix sont des artistes que je connais effectivement, qui sont tous des personnes que j'admire énormément, et je suis ultra fière que toutes ces personnes se soient réappropriées un petit peu ce morceau. C'est trop bien, enfin je suis vraiment très contente, donc ouais, c'était l'évidence. Ouais,
très cool. Bon, en tout cas, cette EP est très cool et j'invite toutes les personnes qui écoutent à regarder la pochette.
Ouais,
qui est très marrante.
C'est Joseph qui l'a faite. Oui, effectivement. Alors un jour peut-être que Timothée portera plein, je ne sais pas, mais en attendant, bah, désolé, mais on utilise son selfie.
Très drôle pochette. Est-ce qu'il y a un sujet qui te touche particulièrement dans ta façon d'aborder la musique?
Waouh, vaste question aussi.
Très vaste aussi, oui.
C'est une question intéressante. Écoute, j'ai plusieurs projets. Il y a Krenoka, mais il y a aussi Planète Corail, qui est un spectacle, enfin un conte musical jeune public illustré, dans lequel on parle d'écologie, par exemple. Donc, je pense que pour pas. J'ai tendance à parler trop, mais je pense que chaque projet dans lequel je crée sont des projets où il y a des sujets effectivement qui sont abordés. Planète Corail, en l'occurrence, comme on est sur des spectacles pour enfants, c'était important pour nous d'aborder des sujets tels que la collectivité, la symbiose, le fait de s'entraider, etc., l'écologie, tout ça. Krenoka, on va dire que c'est vraiment plus c'est mon petit cocon à moi, c'est l'endroit où je vais vraiment pouvoir mettre toute ma tristesse, mais aussi tout mon bonheur d'aimer les chiens, par exemple, ou les chats. Il y a une chanson d'amour pour mon chat, enfin, c'est beaucoup plus intime, on va dire, et beaucoup plus, j'imagine, universel pour les personnes qui ont des vies un peu normales. Bon, j'aime pas trop ce mot, mais on va dire dans un monde occidental et où t'es moyenne classe, voilà.
Okay, ouais, je vois carrément. Pour la suite, est-ce que tu as des ambitions en tant que compositrice, et est-ce qu'il y a des ambitions avec d'autres artistes, par exemple, que tu aimerais explorer?
Wow, les ambitions, j'ai pas préparé ma lettre de motivation.
C'est un interrogatoire.
Wow. J'ai pas d'ambition, si ce n'est celle de pouvoir effectivement continuer à vivre de mon art. Je pense que c'est un peu le but de tout artiste, de ne pas être dans la survie, mais plutôt dans la vie. J'adore créer, ça c'est clair. J'adore avoir des sujets qui me stimulent. Donc c'est pour ça, les contes musicaux pour enfants, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ambition avec Krenoka, je pense que c'est continuer à faire du son avec la personne que j'appelle Chege, qui en fait s'appelle Pierre Cheguillaume, qui travaille beaucoup avec Zao, de Sagazan, pardon. Et j'adore faire du son avec lui, c'est avec lui qu'on a fait le premier album Eidolon, et j'espère qu'on aura du temps ensemble pour continuer à faire du son. Et ensuite, ouais, j'aimerais bien un jour avoir, je sais pas, une petite maison. Enfin, ça, c'est mes ambitions personnelles, peut-être pas musicales, mais voilà. Et les artistes, my dream, vraiment dream, c'est de rencontrer Madonna un jour, parce que je pense que c'est vraiment une personnalité passionnante. Enfin, il y a un docu qui est sorti il y a pas longtemps sur
elle. De Sable Afrite.
Je pense que c'est ça, oui.
Ouais, très intéressant.
Voilà,
vraiment très très cool. Il passe super vite.
Ah ouais.
Et il fait plus d'une heure, mais bon, il est incroyable, vraiment.
Regardez-le
absolument.
Et sinon, peut-être en artiste français, française, je sais pas. Aurel San, j'aimerais bien le rencontrer un jour.
Peut-être c'est pas faire
super
du son,
bien.
Mais franchement,
ouais.
J'imagine ouais, très bien Krenoka X Aurel San.
Ouais, je sais pas,
de
on verra. Mais au moins le rencontrer, il a l'air tellement
ouais,
marrant.
Très gaulerie, en vrai. Mm.
Ça doit être.
Ok, très cool. C'est ma dernière question en tant que Tourangelle. J'ai appris que tu l'étais aussi, mais du coup, on a parlé un petit peu avant. Tu n'es plus de Tours. Mais question qui va intéresser surtout les musiciens. Est-ce que c'est une ville cool pour le développement d'un projet musical?
Mamma mia, oui, bien sûr. Je pense que c'est une ville qui est très complète. Il y a jazz à Tours, il y a musicaux, conservatoires, enfin, il y a plein de trucs. Et surtout, il y a plein de lieux où jouer. Et pour un artiste, alors notamment dans les musiques actuelles, on est très très bien entouré. Il y a la Fracama, il y a le Temps Machine, il y a plein de gens qui sont passionnés par leur métier et qui sont là pour vous aider. et pour se développer. Donc ouais, je recommande, si la question se pose, Tours c'est vraiment vraiment une bonne ville pour faire la musique. Ouais.
Trop cool. Bah, ça a été quoi ton parcours à Tours? T'as fait des écoles comme ça justement? T'as été suivie par Tous en scène ou MDR?
Non,
ou Jazzat?
Non, moi je suis autodidacte. J'ai fait la fac. J'ai fait un master. Non, un master d'anglais. Okay. Voilà, je voulais être prof. Après, j'ai fait une grosse dépression et j'ai fait de la musique. Donc, non, un parcours pas du tout typique, on va dire, mais comme quoi c'est aussi possible. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu beaucoup, beaucoup. Enfin, j'étais très timide et en fait, ça m'a permis de sortir de moi-même et d'aller à la rencontre justement de ces professionnels et de faire des vrais amis en fait parmi eux et elles pour à la fois développer ton projet artistique et puis il y a l'humain aussi derrière. Mais plutôt réseautage, découverte et puis la musique est vraiment, je pense, un endroit qui est accessible à tous et toutes tant qu'on te montre le chemin. Il faut évidemment avoir les opportunités à l'école, par exemple d'aller à des spectacles, à des concerts, etc. Ce qui n'est pas donné malheureusement à toutes les écoles, mais je pense que vraiment c'est un endroit quand même plutôt open et friendly. Okay. Voilà.
Donc du coup, la musique, tu dirais que c'est quelque chose qui t'a aidé à déconstruire ta timidité? Ça s'est fait? C'est à force de parler avec des gens, de faire de la scène? Est-ce que c'est la confiance en toi ou
Je pense d'abord faire du bar. J'ai pas eu le choix, il fallait que je bosse quand j'étais à la fac, donc j'ai fait beaucoup beaucoup de bar. Et ça, ça a été la première étape à sortir de toi. Et après, effectivement, la musique, j'ai rencontré les bonnes personnes. Hein. Je pense sincèrement, j'ai eu de la chance, l'univers fait bien les choses. Et en fait, on s'est, notamment dans Boys and Lilies dont tu parlais au début, on était trois filles, 2012. Enfin, tu vois, on est à une époque où les sujets d'égalité homme-femme, etc., ils n'étaient pas vraiment abordés. Et surtout, le but de Laure, quand elle a créé ce projet, c'était, elle était à Jazz à Tours, pour le coup. Et donc, il y a une école de musique à Tours. Et elle disait, il n'y a que des mecs. J'en ai marre d'être qu'avec des mecs. Voilà. Donc, je veux faire un groupe de meufs. Donc, elle avait fait une annonce. Et il y a eu plusieurs filles. Et au départ, on était cinq filles. Et c'est vrai que ça sortait un peu de l'ordinaire. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de musiciennes, chanteuses qui faisaient ça. Donc, je pense que petit à petit, chaque étape te construise. Et clairement, ça fait 10 ans que je fais de la musique. J'ai 36 ans. Et je me sens tellement mieux aujourd'hui dans mes baskets pour plein de raisons différentes que quand j'avais 26 ans et que je commençais. Hein. C'était pas évident pour plein de raisons aussi.
Bah, très cool. Merci de nous avoir partagé tout ça, ton
parcours, merci à toi, Elena.
Ta musique. Et on va te laisser en écoutant l'un de tes sons qui s'intitule Some Weird Intruder. Merci beaucoup.
I wanna understand this other. On écoutait Krenoka à l'instant, qu'on vient de recevoir en interview. C'était le morceau Some Weird Intruder, une très jolie interview menée de main de maître par Elena de Radio Béton. Et nous, on est toujours en direct de Blind Spot, hein, en disquaire situé à Rennes. Bien évidemment, j'essaie de vous retrouver l'adresse, je ne l'ai plus en mémoire, au 36 rue Poulain du Parc. Voilà, si vous voulez venir passer, faire un petit coucou, voilà, sur ce joli plateau Ferrarock émission Dig Dig Diggers pour les barre en transe.
En attendant de retrouver nos copains en direct de la cité, on peut en reparler de la cité, puisqu'on a déjà vécu une journée bar en transe.
C'est vrai.
On peut quand même dire un petit retour.
Un petit retour sur les choix de concerts qu'on a vus hier.
La salle de la cité, du coup, pour être précis.
Oui, oui, oui.
Nous, c'est l'endroit où on est allé hier après le plateau Ferrarock. On en a profité pour aller un peu voir des concerts, etc.
Ouais, on a notamment vu tous les concerts qui se passaient là-bas, hein, The Destruction of the Cult of the Sun, Yes Basketball, et on a fini par Patch, qu'on avait reçu en interview d'ailleurs, à la salle de la cité, et qui était un très chouette concert, les Montréalais de Patch, que je ne peux que vous recommander d'aller écouter, hein, si vous voulez en découvrir plus, n'hésitez pas d'ailleurs à aller réécouter en podcast l'émission Dig Dig Diggers, qui sera disponible sur le site de la Ferrarock.
Et ce soir, ça va être complet, la salle de la cité.
Ah,
hein.
Ça risque.
On a du bon nom aussi. On en avait du bon nom hier. On en aura du bon nom ce soir. Il y a Théa. Ça y est, j'ai...
voilà, que y a de bon nom, mais on oublie la prog.
Il y aura Lila et Dja. Il y aura Télépagaï. Et sans doute Tedak. Pas sûr.
C'est non, je crois que ça joue au Tiana. Oui.
Les informations sont un peu floues, mais vous inquiétez pas. Ça.
Ne vous inquiétez pas. Toutes les infos sont disponibles sur le site des bars en trans si vous voulez retrouver l'ensemble de la programmation. D'ailleurs, il me semble même que c'est complet, hein, pour ce soir à la salle de la cité. Donc, peut-être si vous avez vos places et que vous l'êtes vraiment au premier rang devant la scène, je vous invite vraiment à arriver tôt parce qu'il risque d'y avoir quand même beaucoup, beaucoup de monde. En tout cas, chez Blindspot, nous, il y a de la place. Donc, si vous voulez venir nous faire un petit coucou, diguer des disques un peu, aller fouiller dans des bacs, il y a des bacs spéciales en plus transmusicales. Donc, si vous avez vu un concert de ouf hier et que vous dites putain, c'est vraiment l'artiste de l'année, et ben vous pouvez venir acheter son vinyle, son 33 tours. Belle galette directement ici chez Blindspot, si l'on en stock, si quelqu'un n'est pas déjà passé par là. C'est quand même un luxe de pouvoir faire ça, de pouvoir aller voir un concert et hop, directement aller acheter son petit disque le lendemain. C'est quand même trop cool. Et puis même pour nous, hein, on les remercie encore une fois, hein, Blindspot, de nous accueillir pour ce chouette plateau. J'avais jamais fait encore de plateau radio dans un disquaire et je dois dire que mes yeux sont attirés un peu partout. J'ai envie de vous raconter plein d'anecdotes sur l'ensemble des disques qui nous entourent. Il y a David Bowie devant moi, je vois un bac trash metal juste devant, du jazz également. Hein, voilà, Jimmy Rainey, un disque que je ne connais pas. On pourra s'en écouter peut-être un jour. En tout cas, on va pouvoir, avant de s'écouter tout ça, retrouver Pablo du côté du Parvis de la Cité pour une chouette interview de Lila Eia. Je ne sais pas si tu nous entends, Pablo, est-ce que tu es avec nous ?
Eh oui, je vous entends très 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 bien. On est là, donc à la salle de la Cité, comme vous avez certainement déjà pu dire. On nous a installé une petite table, tout mignon, des petits bancs, on est vraiment bien installés. Il ne pleut pas encore, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Et y a Lila qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Salut Lila.
Salut.
Comment tu vas ?
Écoute, ça va très bien. Ça va très vite aujourd'hui. Je cours partout, mais je suis très contente d'être ici. Et il fait beau, c'est incroyable.
Ouais, carrément. Ouais, tu viens. Genre là, on est sorti de balance.
J'ai même pas fait mes balances. Ah,
t'as même pas encore fait tes balances. Ok. Ouais. C'est ta première date à Rennes ou t'étais déjà venue ?
C'est ma deuxième date officiellement à Rennes. J'ai joué déjà au Melody Maker il y a à peu près un an.
Ok.
Et j'ai joué aussi à Passé en septembre, donc c'est à côté de Rennes, hein, ça compte quand même, on va dire. Donc c'est ma troisième date, on va dire.
Ouais, et du coup, t'as eu des bonnes expériences déjà en venant à Rennes, ou genre t'étais dit trop cool, je reviens à Rennes, ou il y a un truc de
j'adore cette ville. En fait, je suis pas très friande de la Bretagne, pour être honnête.
Ouais.
Mais j'adore Rennes. Je sais pas, il y a un truc dans cette ville qui est vraiment agréable, assez alternatif au final. Et plein de petits bars, cafés-concerts et tout, c'est cool.
Une chose que tu recherches peut-être un peu aussi, là, j'ai vu que tu as fait une grosse tournée sur l'automne depuis septembre, ouais. Où tu as enchaîné genre, pas mal de lieux, même en dehors de l'Europe. Genre, comment ça s'est passé justement, toutes ces dates-là ?
Ça s'est super bien passé. Je sais pas comment répondre à cette question. Ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des gens incroyables. Et en fait, j'ai eu la chance énorme de jouer sur des scènes quand même assez grandes par rapport à ce que je fais habituellement et ce que j'ai pu vivre à Rennes, justement, avec le Melody Maker qui est microscopique. Donc c'est cool en fait de pouvoir faire des grands écarts entre la scène underground et des scènes un peu plus importantes, un peu plus qualitatives aussi. Enfin, en termes d'accueil, de qualité de matos quoi. Voilà, ouais. Rien que ça, hein, ça change l'expérience complètement.
Carrément. Et t'arrives à trouver quand même le lien entre les deux, genre t'arrives à trouver ta place justement avec ta musique aussi dans ces deux lieux-là, que ça soit un truc underground ou un truc un peu plus institutionnalisé.
Mais en fait, c'est complètement moi. Je suis vraiment entre les deux dans ma musique, je pense. Je reste quand même assez underground, mais j'ai vraiment j'aime écouter des musiques des deux côtés. Et je suis vraiment entre les deux en fait. Donc je crois que ma place, elle est complètement entre les deux.
Trop cool. Et on va parler un peu de ton moi j'appelle ça un deuxième album parce que genre ton premier EP est quand même assez presque long comme un album, mais c'est quand même un premier album du coup, Clivota, qui est sorti en janvier 2024, donc ça fait déjà presque un an.
Ouais.
En plus c'est un album que t'as produit toi-même, que t'as mixé. Quel est ton recul un peu par rapport à cet album-là, genre comment tu le vois aujourd'hui maintenant, un an après, puis en plus le fait de l'avoir fait en live et tout pendant tout ce temps-là?
Ben je suis encore très fière de cet album. Je réfléchis déjà à la suite, en fait, à la façon dont je vais produire, parce que là, j'ai vraiment fait ça en mode DIY chez moi, et je crois que je suis contente de penser à la suite et d'imaginer les choses un peu plus professionnellement. Enfin, en tout cas, de m'entourer peut-être un peu plus pour le son, pour les machines, la qualité des machines que je vais utiliser aussi. Peut-être essayer d'explorer de nouvelles machines, justement. C'est un peu ça, là, mon enjeu, c'est d'acheter des synthés, des boîtes à rythme, vraiment, et d'explorer ça plus profondément, de prendre plus de temps en studio aussi, enfin du temps en studio en fait tout court déjà, et voilà, ouais, ça va être ça la suite, et ouais, je suis encore très contente de cet album. Enfin, je trouve que je perçois les petites choses qui pourraient être améliorées avec l'expérience, mais j'en avais pas encore, enfin j'apprends au fur et à mesure tout le temps en fait, je ne fais que apprendre en faisant de la musique.
Ouais, parce qu'il y a toujours un lien un peu particulier quand c'est toi-même qui fais tout de A à Z. Ouais. T'as l'impression vraiment que c'est, enfin déjà souvent quand t'es artiste, je pense qu'il y a un côté un peu bébé quand tu sors un disque.
Ouais.
Alors là, du coup, quand tu fais vraiment tout de A à Z, c'est encore mieux. En plus, tu fais même la pochette. Enfin, il y a quand même un truc de vraiment travailler ce truc-là. Tu parlais peut-être de t'entourer de gens aussi et de faire quelque chose un peu plus produit, plus travaillé. Est-ce que t'as pas peur de perdre peut-être une identité que t'avais avant en faisant tout toute seule?
Je continuerai à faire les shows toute seule, mais je voudrais juste me faire aider sur des choses un peu techniques, comme le mix, parce que c'est des choses que j'ai apprises toute seule. Et surtout, peut-être travailler plus profondément le son, chaque détail dans la batterie, des choses comme ça que je fais de façon très instinctive aujourd'hui, mais je pense que je pourrais faire mieux en étant un petit peu conseillée. Pas fort, mais en gardant quand même la main sur les choses.
Ouais, carrément.
C'est
carrément
vraiment mon intérêt dans ce projet-là, c'est de tout faire quand même.
Puis je trouve que c'est un... C'est un truc très dans le DIY aussi, c'est pas forcément faire tout par sa propre personne, mais aussi savoir s'entourer des personnes avec la même vision des choses pour pouvoir travailler, faire avancer la chose vers le produit que tu as envie de faire à la fin. Là, on a parlé un peu de temps, genre il y a quand même un an entre l'album. Là, tu disais vouloir prendre plus de temps sur le studio. Quel est ton lien avec la temporalité un peu de tes chansons? Parce qu'il y a quand même un truc chez les artistes d'écrire une chanson, l'enregistrer, sortir le disque, le faire en live, il y a un temps énorme. Genre, je crois que sur ton premier album, là, il y a eu genre 2 ans de travail. Comment t'appréhendes cette temporalité justement dans la création de tes chansons-là? Est-ce que c'est quelque chose des fois qui peut te frustrer ou t'es ok en disant bon bah ça va prendre tout le temps qu'il faut, mais quel est ton vis-à-vis par rapport à ça?
Dans la musique, il faut vraiment pas être pressé, c'est sûr. Et je crois que c'est ça qui est beau aussi, c'est de prendre son temps pour faire les choses et les retravailler tout le temps, les tester en live. Moi, cet album, je l'ai composé pendant 2 ans, mais en réalité, j'ai commencé à jouer les morceaux dès il y a 2 ans, quoi. Enfin, ça fait super longtemps que je le joue déjà en live et que je change des choses sur les morceaux, que je teste. Et oui, il faut prendre. Enfin, le temps, il est important et il faut le prendre. Il ne faut pas avoir peur de s'étaler. L'essentiel, c'est d'être content à la fin. Et je crois que. Et moi, j'ai l'avantage d'être la seule décisionnaire sur mes dates. Et malgré ça, ça prend du temps. Donc, c'est qu'il faut le prendre, quoi.
Carrément. Ouais, il faut être patient, quand tu fais tout ça.
Oui, et puis en fait, c'est agréable. Le processus de fabrication, il est tellement agréable que c'est cool.
Trop bien. Tu qualifies ta musique de froide wave.
Ouais.
Et j'ai l'impression que tu mets l'accent aussi sur le côté français-anglais. Parce que aussi, dans tes chansons, il va y avoir des côtés français et anglais. Quel est ton rapport par rapport à ça, au fait de pouvoir changer de langue comme tu le veux?
Pour moi, c'est juste une question de confort. Il y a des moments où je suis plus confortable en anglais parce que je veux rester assez évasive sur les sujets. Il y a des moments où j'ai envie de travailler plus la poésie de la langue française. Et du coup, c'est les morceaux en français que je mets le plus de temps à écrire. Et voilà, j'aime bien alterner entre les deux, avoir un truc un peu plus direct, simple et aussi un côté plus poétique. Du coup, je pense que je garderai toujours un peu cette dualité français-anglais.
Ouais, bah ça m'a fait penser. Enfin, j'aime bien parce qu'en ce moment, il y a un peu un truc d'être un peu plus radical dans. Il faut soit que ce soit tout en anglais ou tout en français ou un truc comme ça. Et il y a une artiste, je sais pas si tu connais, Lassa Desella, qui est une artiste américaine qui disait qu'elle chantait en espagnol, en français et en anglais. Et elle utilisait les langues, elle disait que c'était comme changer d'instrument, genre par exemple. En anglais, tu prends une guitare et si tu as envie de prendre une basse, et tu vas dans le français. Est-ce que tu vois un peu ce rapport-là aussi dans les langues ou est-ce que c'est vraiment juste une question de confort comme tu disais tout à l'heure?
Je vois quand même ce rapport-là. C'est... En fait, la sonorité des langues, elle est vraiment différente et quand tu entends une chanson anglophone ou française, tu perçois pas du tout la même chose et je pense que oui, évidemment que ça joue au-delà du confort, même si le confort il est quand même. Ça joue complètement sur la musicalité, c'est sûr.
Trop cool. Et j'ai envie de parler de ça aussi parce que le nom de tes albums, enfin de ton EP, Clivota et Yo, c'est donc du roumain et du finnois. C'est pour ça que je me disais qu'il y avait peut-être un truc avec les langues. Genre, pourquoi d'ailleurs ces noms-là en roumain et en finnois?
Alors, c'est un peu un hasard. Yo, en fait, ça veut dire la nuit en finnois. Et mon prénom, Lila, veut dire la nuit aussi. Et je ne sais plus comment je suis tombée dessus, mais c'est un peu par hasard. Et j'ai trouvé ça. Je me suis dit, mais c'est absolument. Ça va être ça le titre de mon premier EP. Et pour mon album Clivota, en fait, je cherchais des. J'écris quand même globalement sur le spleen, cette espèce d'état un peu suspendu dans la ville de Paris, mon quotidien. J'ai toujours une espèce de spleen et je cherchais à l'exprimer dans mes textes. Et donc j'ai fait des recherches autour de ça, de Baudelaire et tout. Et un jour, je suis tombée par hasard sur le mot Clivota. Donc c'est le spleen en roumain. Et j'ai trouvé ça hyper joli comme mot. Donc je me suis dit que c'était évidemment aussi ça que j'allais utiliser comme titre d'album, même si j'utilise pas de roumain dans mes paroles. mais je trouvais ça. J'aime bien la sonorité et en fait c'est un spleen, mais j'ai l'impression que chaque langue, chaque pays a un mot pour définir le spleen. Et celui-ci, il est peut-être un peu moins dramatique que celui de Baudelaire. Et j'aimais bien ce côté un peu nonchalant en fait dans le sens.
Même dans les sonorités, il y a un truc limite un peu plus solaire que le spleen, le blues. Enfin,
c'est vraiment moins premier degré et ça me correspond très bien au final. Cette version-là du spleen me correspond bien.
Trop cool. Est-ce que tu vois un peu aussi ce rapport de spleen mais un peu solaire dans tes influences? Genre par exemple, il y avait le côté du coup romain finnois et je voulais faire peut-être un axe avec le black metal que tu as déjà cité comme une grande influence. On a même joué dans des groupes. Qu'est-ce que t'inspire le black metal dans la musique que tu fais, dans la froid wave? Et est-ce que si tu pratiques encore le black metal, qu'est-ce que la froid wave que tu fais influe dans le black metal que tu vas jouer?
Pour moi, les touches de black metal dans ma musique, c'est vraiment dans le choix des riffs de guitare, un peu dans l'esthétique aussi. Mais dans le choix des riffs de guitare, il y a des sonorités qu'on peut retrouver dans le black metal. Enfin, vraiment, dans le choix des riffs, c'est... Alors, je n'ai pas de technique pour parler musicalement, mais à l'oreille, je sais de quoi je parle, donc ça va être compliqué à expliquer. Mais je crois que c'est une espèce de demi-ton dans les riffs. Et le côté punk, en fait. Le black metal, pour moi, c'est aussi du punk. Et du coup, j'insuffle ça dans ma musique. Et aussi, c'est quand même un genre de musique qui est très froid. Il y a des groupes qui utilisent du chorus et de la réverb, et j'utilise aussi ces effets-là. Et je pense que, en fait, j'en ai tellement écouté que ça influe forcément dans ma musique. Et si aujourd'hui je jouais du black metal, je sais pas, je ferais comme je fais aujourd'hui, mais avec d'autres personnes, quoi.
Ouais.
Je pense que j'aurais la même façon.
Bah, j'aimais bien le fait que tu dises. Que tu donnes un terme à toi-même pour la musique, pour ta musique, parce que c'est vrai que maintenant il y a tellement de styles et de catégories différentes qu'au final, je trouve ça plus pertinent quand c'est les artistes eux-mêmes qui disent je fais tel genre de musique plutôt que ça soit d'autres personnes qui disent on va plutôt le mettre là-dedans que là-dedans. Du coup, je trouvais ça assez pertinent et du coup, que ça soit du black metal, de la cold wave, du post-punk, au final, c'est ce que l'artiste en va implémenter dans sa musique, qui va définir un peu ce que ça va être.
Ouais. Et moi, pour le coup, j'ai tellement d'influences différentes que fallait que je crée une étiquette, parce que je fais pas vraiment de la cold wave, je fais pas vraiment du post-punk, je fais pas vraiment du black metal, je fais un peu tout ça à la fois, et je fais pas du shoegaze, mais j'en fais aussi quand même.
Ouais, c'est ça. On est arrivé à un stade où il y a tellement d'influences, tellement de groupes, et on écoute tellement plein de choses. Maintenant, c'est tellement accessible facilement que, bah, évidemment, qu'il y aura 1000 styles différents dans la musique de chacun à chacune. Peut-être dernier point, du coup, tu as fait de la musique en groupe, tu fais de la musique là en solo. C'est quoi ton rapport avec les deux, justement? Pourquoi là, pour ce projet-là, tu as décidé de tout faire en solo? Et genre, pour d'autres projets, tu veux dire, bah, quand même, le groupe, c'est un peu mieux.
Je me suis lancée en solo parce que, bah, avec mon groupe de black metal, on piétinait un peu et on a du coup arrêté de jouer. J'avais pas envie d'arrêter la musique et j'avais envie de jouer tout de suite maintenant. J'avais pas envie de chercher des gens autour de moi et du coup, je me suis lancée comme ça, vraiment très instinctivement. Et au final, bah, j'ai trouvé mon compte puisque je suis là aujourd'hui. Et je trouve ça, enfin, c'est bien de pas dépendre des autres aussi parce que quand on s'investit dans un groupe, il y a quand même l'idée de, faut penser quand même assez loin le truc et combien de temps on peut. Enfin, c'est une histoire de temps personnel, quoi. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut s'investir, et c'est dur de trouver des gens qui vont s'investir de la même façon que nous dans un projet musical. Donc c'est cool d'avoir cette liberté quand je suis solo. Et j'avoue que ça me manque un peu de jouer en groupe quand même. Mais pour un truc un peu plus léger, quoi. Enfin, ouais. Jouer en groupe sans forcément viser des choses particulières, c'est vraiment... Pour moi, c'était... Quand je jouais en groupe, d'ailleurs, c'était vraiment un moyen de se retrouver entre potes et de boire des bières et de faire la musique, quoi. on cherchait rien de plus que ça.
Ouais, carrément. Bah, merci beaucoup pour ton temps. On te retrouve ce soir à la salle de la Cité, du coup, à 22h50, donc à heure un peu tardive. Et on va écouter un titre de ton dernier album, justement, c'est The Book. We'll be right back.
vient de s'écouter le titre de Lila Edja, The Book. Elle était en interview avec Pablo juste avant sur le parvis de la cité. Nous, on est toujours en direct du Blind Spot. Et puis, en fait, on va encore changer de lieu. Hein. On va aller du côté de la Tête de Chou, un bar rennais.
Et oui, nous sommes en direct depuis la Tête de Chou dans notre studio mobile et on va accueillir nos prochains invités. Canal B, vous nous entendez bien ?
Interviewer Grand Eugène dans quelques instants.
Nous, on vous entend pas, c'est les aléas du direct. On est un petit peu partout à Rennes, alors on espère que vous nous entendez. En tout cas, j'accueille donc le prochain groupe, les prochains invités, c'est Grand Eugène. Une alchimie entre le rêve et la réalité, une proposition indie rock aux sonorités dream pop qui nous transporte avec des compositions profondément humaines. Vous êtes basé à Montréal et cette histoire a même débuté, je crois, à Vancouver. Et ce vendredi, vous serez donc sur la scène de la Tête de Chou. On se trouve juste à côté à l'extérieur. On a peut-être un petit peu froid. Comment ça va?
Bah ça va bien, on est encore jet lag je pense.
Ouais.
Bon, on va quand même continuer parce qu'on est avec nos invités. Du coup, bienvenue en France. Vous êtes un peu jet lag, vous êtes arrivé quand?
Hier on est arrivé, puis c'était quelque chose.
Ouais, vous avez eu quelques mésaventures?
Non, mais c'est juste le décalage horaire, là, c'est tellement spécial à vivre, mais là aujourd'hui on va mieux.
Ouais, c'est ça.
On est prêt pour... Pour les spectacles.
Vous avez quand même pu profiter de la ville. C'est la première fois que vous venez à Rennes?
Oui, la première fois à Rennes. On est déjà venu en France, mais à Rennes la première fois. Puis on aime vraiment beaucoup la ville. Très belle ville, jusqu'à maintenant.
Vous avez pu tester un peu les bars? Les cafés?
Les cafés, exact. Puis là, on a été voir Patch, des collègues montréalais. Puis c'était vraiment le fun. C'était à la salle de la cité.
Bon, on va pouvoir plonger dans votre univers puisque votre musique semble être, je trouve, habitée par une tension entre quelque chose de très intime et une forme d'universalité quand même. D'où vous vient cette dualité? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez? C'est un choix délibéré ou quelque chose qui s'impose à vous quand vous composez?
Je pense que on cherche tout le temps un peu à faire quelque chose qui est comme à la limite du dansant puis du planant. Puis en show, ça se ressent aussi. C'est quelque chose qu'on recherche. Je pense qu'on aime beaucoup les textures qui sont... sont soft, mais on aime ça danser aussi.
Ouais.
Et vous travaillez ensemble tous les deux sur les compositions?
C'est surtout Jérémy qui compose. Là, on commence tranquillement à travailler un petit peu plus ensemble, mais tout ce qu'on a déjà entendu de Grand Eugène, ça vient de Jérémy.
J'aime ça, par contre, qu'on essaye de composer pour les prochains trucs ensemble. C'est comme il y a des idées que moi, j'aurais jamais, tu sais, puis que Mélissa est capable d'avoir.
Mélissa, c'est plutôt pour la voix, du coup. Il y a peut-être aussi des propositions différentes auxquelles toi, tu penses pas quand Mélissa propose des choses?
C'est sûr que j'ai une oreille très mélodique en tant que chanteuse. Mais tu sais, les deux, on est comme musiciens, puis on a un peu une oreille musicale pour tous les instruments. Mais oui, Jérémy s'occupe beaucoup des instruments.
Ouais. Alors moi, j'ai une question sur ce nom de groupe Grand Eugène. J'imagine une figure un peu énigmatique, une entité. Est-ce que c'est un alter ego, une métaphore, une personne que vous avez remarquée? D'autant que c'est le nom du premier album sorti en 2023, c'est ça? Donc c'est très important pour vous. Grand Eugène, c'est qui en fait?
Mais en fait, c'est très simple. C'est qu'en un moment donné, on était un peu bourrés ensemble, puis on s'est dit, si on voulait acheter de l'alcool, puis qu'on était des enfants de 12 ans, puis qu'on se mettait une par-dessus l'autre, ce serait qui ce personnage-là? Puis on s'est dit que ce serait probablement un mec qui s'appelle Grand Jeune.
D'accord. Donc c'est son nom de famille, prénom, et c'est ouais. Vous deux, l'un sur l'autre, enfin le dos ouais. Sur le dos de l'autre.
À 12 ans, qui essaie d'acheter de l'alcool, ouais.
Incroyable.
Très grand monsieur.
J'avais pas imaginé ça, mais ok, ouais. Je prends. Si on regarde vos premiers projets et ce que vous proposez aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même une évolution. Sur les vacances d'été, par exemple, est-ce que, avec le recul, vous trouvez que ça a été un tournant décisif pour Grand Eugène?
C'est dur à dire. Je pense que c'est vrai qu'on a fait des trucs un peu différents que sur le premier EP, mais c'est pas tant décisif dans le sens où on travaille toujours, on essaie d'évoluer, d'essayer des nouvelles choses. Donc c'est pas tant un tournant décisif d'une voie où est-ce qu'on veut aller. Je pense que ça se dessine naturellement.
Ouais. Puis tu sais, genre, je pense que le son du premier EP, on l'adore quand même, puis on va continuer de composer aussi dans ce style de son là.
Ça reste une ligne à suivre.
Autant qu'il va y avoir des trucs différents aussi dans les prochaines choses qui vont venir.
Surtout si vous travaillez du coup de manière un peu plus collégiale. Entre Vancouver et Montréal, votre cœur balance un petit peu. Comment ces environnements si différents influencent vos sons?
Ben là, c'est à l'époque, moi je vivais à Vancouver, puis c'est là que j'ai comme eu un petit peu l'idée de commencer ce projet-là. Mais aujourd'hui, c'est plus comme... c'est vraiment à Montréal que ça se dessine, ce son-là. Puis Vancouver, c'est plus une figure énigmatique qu'on souhaite un jour rejoindre.
Oui, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, je voulais juste... ça va.
Dans le titre « Décembre », je trouve qu'il y a une mélancolie douce, mais jamais pesante. Un morceau qui semble être une sorte de contemplation du temps qui passe. Et d'ailleurs, il y a un des titres de l'album qui s'appelle « Les heures ». C'est quoi votre propre relation au temps? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète et dont vous voulez pas trop parler? Ou justement, c'est quelque chose qui peut vous inspirer?
Waouh!
Je pense qu'on est très différents sur notre relation au temps.
Oui, probablement. Moi, c'est sûr que le temps me stresse quand même, mais c'est inspirant. Je pense que souvent, on oublie dans la vie de prendre le temps, de prendre du temps pour nous, prendre le temps. Souvent, on dit on n'a pas le temps, mais il faut le prendre. Mais ouais, c'est spécial, le temps.
Ouais, moi, au contraire, je me fais chier quand j'ai rien à faire, fait que j'aime ça quand ça va vite.
Ouais, mais les deux, on est des gens qui ont quand même besoin de choses à faire, de ouais, travailler. Puis, ouais. Mais moi, j'apprécie un peu plus mon temps ouais, quand j'en ai ouais, pour moi.
Et surtout quand on est en vacances. C'est d'ailleurs le thème de l'album, les vacances d'été. Je trouve que l'été, c'est intéressant parce que ça évoque aussi une certaine légèreté. Pourtant, dans les morceaux, il y a quand même des sujets qui sont abordés, des émotions un peu complexes. Est-ce que c'était pour vous une intention de jouer avec ce contraste ou c'est juste une coïncidence?
C'est juste une coïncidence, je pense.
Ouais, une coïncidence.
On ne s'est pas posé trop de questions. Je pense comme un amalgame de chansons. Puis on trouvait que ça sonnait bien en été. C'est comme... En buvant, je sais pas, un Campari soda ou quelque chose. C'est quelque chose qui se consomme bien en été.
Ouais. Alors justement, par rapport à la consommation de ces titres, moi j'imaginais plutôt quelque chose qu'on écoute parfois seul, un peu dans sa bulle, comme par exemple le moment ou décembre. Mais du coup, Jérémy, tu réponds un petit peu. Pour toi, c'est plutôt ensemble, bah, peut-être sur une terrasse, en train de boire un petit coup.
Je sais pas, mais partout.
Ouais, c'est... C'est difficile à dire.
Non, mais tu sais, c'est comme genre les chansons des vacances d'été, je trouve que ça sonne un peu été et tout ça, mais en même temps, le premier album, c'est quelque chose qui s'écoute seul aussi. Ouais. C'est dream pop, ça s'écoute partout.
Et quand vous créez, vous le faites pour vous-même ou vous imaginez déjà comment les gens peuvent le recevoir et s'approprier vos titres?
Ben, je pense qu'on le fait aussi pour les gens parce qu'on aime vraiment l'expérience de live. Puis quand on compose ou quand on produit, on se demande souvent qu'est-ce que ça va donner en live, cette partie-là. Puis c'est toujours dans notre tête un peu comment que le public va le recevoir. Tu sais.
Ouais, parce que ça fait que c'est un vraiment un beau partage quand c'est bien reçu, parce qu'on se fait donner aussi de l'énergie en concert. Ouais. Fait que on aime ça créer autant pour nous que pour les autres, ouais, je pense.
À quoi on peut s'attendre justement pour le concert de ce soir?
On est vénère en ce moment là. On a hâte de jouer puis je sais pas. Pour nous quand on va faire le concert, il va être genre 5h du soir
ouais,
dans notre
ouais,
corps.
On va avoir de l'énergie. Ouais. C'est comme le seul concert qu'on a dans ce séjour-ci en France. Donc ouais, on est vraiment excités puis on va tout donner pour celui-là.
Ouais, ouais.
Donc beaucoup d'énergie quand ouais, même. La voix reste toujours planante donc on va être un peu planant mais tout plein d'énergie. Ouais. On va casser ouais, la baraque.
Exact.
Donc jet lagué mais quand même à fond pour ce
ouais,
soir.
Ouais, à fond.
Bah, merci du coup Grand Eugène pour ce moment d'échange. On a hâte de vous voir pour ce moment planant. Donc c'est ce soir à 21h15 à la Tête de Chou dans le cadre du festival Bar en Transe. Un concert à ne pas manquer. Et on va s'écouter un titre qui va déjà nous mettre un petit peu l'eau à la bouche pour les auditeurs qui nous écoutent. On va écouter ce titre qui s'appelle « Mille End » et qui est donc issu de votre EP « Les vacances d'été ».
Merci.
Quel chouette morceau de Grand Eugène, Mile Hand. Vous venez d'écouter l'interview menée par Lucie à la tête de chou, et ça a retrouvé ce soir Grand Eugène à la tête de chou.
C'est super doux, Grand Eugène. Ouais,
franchement, j'aime beaucoup ce qu'on a écouté.
Ouais. Jolie découverte sur le canapé du Blind Spot, en tout cas de notre côté. En attendant de retrouver la prochaine interview, peut-être qu'on peut rappeler qu'on est en direct des bars en transe tout ce week-end.
Exactement, jusqu'à 19h.
Exactement, on est à la moitié à peu près, là, même pas encore, presque à la moitié de ce direct. Si vous avez loupé les interviews, on a démarré à 16h hein, sur ce plateau et passé Mixtraus, Krenoka, Lila et Ja, Grand Eugène et à venir du joli nom, mais on vous laisse la surprise.
Ouais, absolument.
Est-ce que vous entendez là, ce que les auditeurs doivent capter qu'on écoute du reggae ici à Blind Spot, c'est assez cool. Et juste aussi un petit dédicace à un doyen de Canal B qui vient de nous rejoindre à Blind Post, c'est Jean-Loup Grignoux qui a 35 ans de radio à Canal B. Donc je peux vous dire que qu'on a du beau monde ici à Blind Spot.
Nous on fait pas les fiers sur la banquette.
Oui c'est vrai. Bon, on est bien en même temps, là, écouter du reggae.
C'est vrai, Blind Spot, hein, n'hésitez pas à passer. Hein, on vous le disait tout à l'heure, il y a même un bac spécial transmusical. Et donc si vous avez écouté un chouette concert, vous pouvez venir acheter le disque de votre découverte transmusicale de cette année directement. Mais pressez-vous, hein, parce que on a vu pas mal de monde passer et ressortir avec des jolis sacs remplis de beaux vinyles. Donc il y a de la concurrence. Si vous avez vraiment envie de quelque chose en particulier, on vous invite à passer.
C'est Raphaël de Radio Méga là qui va perdre beaucoup d'argent cet après-midi. Midi, il n'arrête plus de fouiner dans les disques.
Il est en train de vider les bacs.
Ouais, c'est clair.
Pardon, vas-y.
D'ici quelques minutes, on sera de retour au Tiana pour vous présenter ce qui va se passer ce soir à la salle de la Cité. Vous pouvez retrouver notamment Télépagaille, Théa, Parsec, Elila et Ja. C'est Télépagaille qu'on aura depuis le Tiana tout à l'heure.
Et non, ça sera même pas depuis le Tiana, ça sera depuis le parvis de la Cité. Ils seront sur place.
Ah bah oui, c'est ils sont cool, ces dispositifs qui nous permettent d'émettre depuis un peu n'importe où.
Bah ouais, hein, parce que ça, on vous l'a dit en début d'émission et on vous le rappelle. Nous, on est en direct du Blind Spot, mais nos chers animateurs et animatrices des radios Ferrarock arpentent et parcourent la ville de Rennes dans tous les bars un peu cool, les lieux un peu chouette pour aller interviewer ces artistes qui joueront durant toute la programmation des bars en transe. Donc vous, nous nous entendez depuis le Blind Spot, mais vous pouvez aussi entendre des voix qui sont en direct du studio de Canal B, mais aussi du Parvis de la Cité, on vous le disait, du Tiana, vous en entendrez tout à l'heure. Bref, en parlant du Parvis de la Cité, peut-être qu'on va retrouver notre interview de Télépagaille.
Oui. Qui sera menée. Est-ce que Yann nous entend au Parvis de la Cité?
Oui, nous sommes là, nous sommes ici.
Ah, super.
Devant la
Yann,
cité,
je te laisse la main, nous
Philippe
te laissons
Pascal,
la main.
Figurez-vous. Eh oui, du nom de cette vieille gloire morte rennaise, on va croiser des futures gloires vivantes, celle-ci et parisienne. Oh. Alors, gloire, je sais pas, futur, c'est sûr, mais pourtant on est dans le passé et le futur en même temps avec vous, c'est ça qui est assez cool. Télépagaille, bonjour, on est avec deux des musiciens, Tanguy et puis Raphaël. Tanguy, toi t'es la batterie.
Ouais, c'est ça. Salut tout le monde, salut. Merci beaucoup de l'invite.
Et puis Raphaël, toi tu es au basse et guitare.
Je suis à la basse, guitare sur les EP, tout à fait.
Un groupe qu'on a vu apparaître en 2023, où il y a peut-être eu des choses avant, mais il y a eu un EP qui sortait en 2023, Limbo, où vous placiez déjà les choses clairement. On se souvenait peut-être de la compilation Bip du label Born Bad en 2006, peut-être pas. On avait entendu la compilation Bingo, le faux punk un petit peu bizarre. Et puis on entend des choses futuristes, et puis qui font peur, mais qui font rire en même temps, sans que ce soit de l'humour, hein, parce que c'est pas de la musique humoristique non plus, la musique de Télépagaille. Comment s'est né le projet? Qui a lancé les invitations aux autres?
C'est le grand chef Raph et Yacine qui est absent, enfin qui est pas autour de la table. Mais du coup, je vais laisser Raph en parler, c'est vraiment les deux créateurs.
Ouais, c'est nous qui avons lancé en fait les 5 compos qu'on retrouve sur Limbo, le premier EP. Et on l'a fait un petit peu en mode duo, et on comptait d'ailleurs le jouer en live en mode duo. Mais on s'est rendu compte que ça n'avait pas l'énergie qu'on souhaitait. On voulait vraiment un vrai groupe, comme les groupes qu'on va voir en salle et qu'on adore, voir dans les bars, etc.
Lesquels par exemple?
Johnny Mafia, Psychotic Monks, Fair, okay. Voilà. Des gens aussi qui traînent un peu dans les mêmes endroits que nous, voilà. Et on a donc recruté en fait des musiciens en partie sur des forums obscurs sur internet. Tanguy, on l'a
tu connais Easyzik?
Non,
ce vieux truc là. Bah, c'est des petites annonces pour musiciens en gros. Salut, je fais ça, je voudrais faire ça, est-ce que ça dirait à quelqu'un de me rejoindre comme batteur, quoi.
Puis en fait, pour un premier projet à deux dans leur chambre, ils avaient un truc qui tenait la route, mais mortel, quoi. Bah, tu connais, t'as écouté Limbo. Du coup, ben en fait, on est venu avec les deux copains en plus là, à la guitare et au synthé, et puis on a essayé d'enjoliver ce qu'ils avaient déjà créé, quoi.
La ligne directrice était déjà posée avec ce côté rétro-futuriste, punk synthétique, paroles idiotes, mots complètement ringards. Hein. On peut croiser des maboules ou des zigotos dans les chansons de Télépagaille. Ce que n'utilisent pas forcément ces mots-là les gens de votre génération, normalement.
Bah ouais,
on sait pas trop de quelle génération on est avec
D'ailleurs, moi je sais pas trop non plus finalement. Vous avez quel âge en groupe?
On est de 95 en gros.
Entre 26 et 30 ans et pas 95 ans.
D'accord. pas encore. Mais non, c'est ça, du coup, ouais, c'est un peu le loufoque de Télépagaille. En tout cas, moi qui m'a parlé clairement quand j'ai écouté le truc, tu vois.
Alors j'ai pas pu m'empêcher de penser à Infecticide, hein, forcément, je suis désolé, ouais. Je vous la balance, cette référence, on vous la balance sans arrêt, certainement. Ouais. Sauf que vous ne vous déguisez pas, en fait.
On se déguise pas, mais on adore Infecticide, c'est d'ailleurs un des groupes fétiches de moi et Yacine quand on a lancé le projet. C'était pas une inspiration, mais c'est quelque chose qui nous a rapprochés quand même. Donc c'est vraiment un groupe qu'on adore et on aime beaucoup leur démarche, leur musique, mais on n'a pas ce penchant pour le déguisement non plus.
Alors on est plus près d'Infecticide, c'est sûr, que de Frustration, on n'est pas près de chez Gwendoline non plus, on n'est pas dans un constat de l'époque qui fait peur parce qu'elle fait peur, non. On fait des chansons qui racontent une époque qui semble faire peur, mais juste en disant des conneries, quoi. Et pourtant ça fait peur aussi.
C'est un peu ça, ouais. On nous a dit des fois arrêter d'écrire des chansons moroses ou tristes, mais... En fait, c'est le champ lexical de la routine, tu vois, qu'on détourne avec notre musique qui donne envie de bouger la tête, et puis on espère faire lancer les gens avec des conneries en français, tu vois.
C'est pas mal de le faire comme ça. C'est pas la première fois qu'on va vous croiser à Rennes. Là, vous allez jouer Salle de la Cité pendant les bars en transe. Il y a déjà eu des apparitions de Télépagaille ici. Qui sont ceux qui vous ont fait venir et ça se passe comment, la connexion Télépagaille-Rennes par exemple, ou d'autres villes, mais avec le tissu underground?
Ouais, bah, c'est la quatrième fois qu'on vient jouer à Rennes. Les deux premières fois, c'était l'an passé, donc au Melody Maker et au Market Sad, donc des salles très actives sur les scènes, on va dire underground rennaise. Et on a rencontré en fait par internet des assos, dont Mourir Bête, Vague Confusion, qui nous ont permis de jouer ces deux premières dates à Rennes. Et donc on est revenu aussi un petit peu par une soirée annexe de Vague Confusion il y a un mois, du coup, pour jouer notre troisième date à Rennes, toujours au Market Sad. Et c'est toujours un plaisir, et le public est très réceptif à ce qu'on fait. Et on a aussi des attaches un peu personnelles avec cette ville. Moi, j'y ai étudié, je viens de Bretagne, etc.
Ouais, c'est toujours un plaisir en général, quoi.
Ouais, ouais.
C'est un plaisir de revenir par ici.
Voilà. Et donc on s'échange un petit peu aussi des soirées avec les groupes qui jouent dans ces assos-là. Voilà, on a fait jouer un des groupes attenant à Mourir Bête à notre release party à Paris. On a même tourné avec eux en Bretagne, à Douarnenez, à Nantes, à Rennes. Donc
écoutez,
on se sent assez proche en fait de ce tissu rennais de manière générale.
Je parlais du côté un petit peu bizarre et idiot des chansons de Télépaga et ça se ressent notamment quand on a une chanson où le narrateur c'est une boîte de conserve ou un distributeur automatique. De n'importe quoi d'ailleurs. Il distribue quoi à votre distributeur en général, vous?
Des bonbons, des sucreries, des billets de banque, ça dépend de l'humeur du jour.
Hein. Un petit peu de bière de temps en temps.
Mais on aime beaucoup l'idée de personnifier des objets inanimés en fait, et leur raconter un peu leur vie, quoi, à laquelle on pense pas trop quand on les utilise. Quoi.
Et cette boîte de conserve, c'est vraiment une boîte de conserve ou c'est une sorte de robot qui vient du futur?
Mais ça, tu l'interprètes vraiment comme tu veux, quoi. Non, bah, littéralement, pour nous, c'était vraiment une boîte de conserve. On a fait un clip, d'ailleurs, qu'on a sorti cette année-là, où c'est littéralement une boîte de conserve, quoi. Et genre, on en a fait du merch, on en a fait du machin. C'est devenu un peu le symbole de ce dernier EP, quoi.
Qui écrit les paroles de Télépaga? C'est Yacine? C'est vous tous ensemble?
C'est que Yacine. C'est son univers complètement déglingué et son imagination très colorée en fait qui ressort là-dedans. Il veut nous faire rire un peu parce qu'il a l'impression de commencer à tourner en rond. Je suis pas d'accord. Mais il veut commencer un petit peu à nous intégrer là-dedans. On verra si c'est possible. Mais pour l'instant, je lui fais entièrement confiance pour aligner des conneries.
Tu vois, il a une patte que tu reconnais sur tous les morceaux. En fait, peur que ça change un peu si on s'y met. Chacun est un peu complémentaire dans son rôle. Lui, il sait très bien faire ça, qu'il continue.
Yacine est juste pas loin, là. Bon, il n'est pas ici autour de nous pour l'interview, mais vous pourriez nous donner quelques idées de ce qu'il lit, ce qu'il regarde, ou ce que vous aimez lire, regarder, qui vous inspire du cinéma des années 70, des polars un peu merdiques, mais marrants.
Alors, il faut savoir que Yacine, déjà, vient du hip-hop à la base. Donc, sa rencontre avec le rock s'est faite assez récemment, notamment dans les concerts à Paris, dans lesquels je l'ai un peu rencontré, quoi. J'ai appris à le connaître en faisant des festivals ensemble, etc. D'ailleurs, notre premier concert ensemble, c'était Johnny Mafia, et puis Infecticide, etc. Donc, on s'est un peu rallié autour de ça. Et ce qui nous inspire, côté film, etc. Moi, je me retrouve, je les écris pas les paroles, mais je me retrouve vachement, justement, dans son approche. Parce que je lis pas mal de SF aussi, beaucoup de films d'anticipation des années 70, parfois un peu loufoque, parfois un peu série B. Et je trouve cette jonction entre le comique en fait et l'anticipation et le technologique, etc. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que je retrouve aussi dans les bouquins de William Gibson notamment, ce genre de choses. L'interaction humain-machine aussi qu'on entend dans Distributeur sur le dernier EP. Voilà. Donc malgré lui, Yacine me renvoie vers des références en fait que j'adore depuis que je suis ado. Donc ça me fait énormément plaisir en fait de participer là-dedans et d'avoir ce texte qui peut se lire en fait de beaucoup de manières et sur lequel on peut accoler pas mal de refs selon d'où on vient.
Et ça me fait penser aussi peut-être à un Philip K. Dick qui, au lieu d'être complètement paranoïaque, aurait été super heureux de vivre et aurait pris des drogues pas les mêmes que celles qu'il prenait. Quoi.
Ouais. Ouais, c'est une bonne lecture, c'est une bonne lecture. Philip K. Dick que j'aime beaucoup aussi. Faudrait que je file quelques bouquins à Yacine, je pense qu'il s'y retrouvera là-dedans.
Le premier EP, c'était Limbo, 2023, 5 titres. Le deuxième, bon bah voilà, un an plus tard, 5 titres. Ça va être la façon de fabriquer les disques ou les recueils de morceaux, comme on disait, peut-être pas dans les années 80, mais bon. Comment ça se passe pour vous, le fait de faire deux fois un EP de 5 titres? Il n'y a pas d'album encore?
En fait, déjà, l'EP Limbo, ils l'ont enregistré à deux, et nous, on l'a joué en live après. Donc, le Traction qui est sorti cette année, c'est le premier EP à 5. Enregistré à 5 et défendu sur scène à 5 aussi. Et donc c'était le dernier step avant l'album. Et donc là ça va être le process de cette année là, 2025. Ça va être un album, un vrai comme il faut, bien chiadé, etc. quoi.
Enregistrement avec Kevin Heuzé, qui a bossé avec Lulu Von Trapp par exemple, et
exact.
D'autres encore.
Tout à fait.
Ça se passe comment le travail entre le groupe et celui qui vous mixe et produit?
Alors d'ailleurs c'est Kevin.
Et enregistre, pardon.
C'est Kevin d'ailleurs qui fera notre son ce soir à la salle de la Cité, donc on est très content de l'avoir avec nous parce qu'il connaît très bien notre son, parce qu'il a mixé les deux premiers EP. Comment ça se passe? Bah en général on arrive avec un produit presque fini en maquette et il y a un petit peu de prod avec Kevin et il s'occupe surtout du mix. Voilà, et ensuite on passe le master à une de ses collègues avec qui il bosse souvent, voilà, donc ils se connaissent, en général ça rend un travail assez propre et on aura peut-être ou peut-être pas la même approche pour l'album encore à définir.
Je retourne sur la présentation du site des Bars en Transe qui parle d'un plastique Bertrand sous produit, je sais pas lesquels exactement, du Speed, mais non je pense pas, parce que plastique Bertrand on sait que c'est pas lui qui faisait les trucs, donc c'est pas vraiment plastique Bertrand sous Speed vous d'autres.
Alors, bah, c'est pas notre bio, c'est ce qu'on y a trouvé, mais je trouve que c'était assez bien trouvé d'ailleurs. Non, que dire, Plastic Bertrand, c'est pas quelque chose qui nous parle forcément, mais je comprends qu'on puisse le rattacher au niveau très coloré, le côté bah, plastique en fait de sa musique, un peu loufoque, voilà, donc pourquoi pas.
Bon, j'y verrai finalement, je crois, une sorte de réponse au Divo de l'Ohio des années 70, mais transposée dans les années 2020 ici en France.
Ah, tu vas lui faire plaisir.
Ah, ça me fait énormément plaisir. J'espère que c'est pas trop évident dans les tracks que j'écris, mais j'aime beaucoup Divo et dès qu'on m'en parle, j'ai des étoiles dans les yeux. Voilà.
Et c'est vrai, hein, je vois d'énormes étoiles dans tes yeux.
Voilà, donc grosse inspiration aussi pour nous, et bien sûr un groupe vers lequel on revient assez souvent de notre côté, plusieurs dans le groupe d'ailleurs ont cette appréciation pour Divo.
Vous êtes sur la fin de la soirée ici à la salle de la Cité, je crois, peut-être pas en dernière place, mais bon, en tout cas vous jouez vers 23h50, donc je crois que ça paraît être la fin un petit peu. Vous jouez avec qui, des potes et des potesses?
Alors ce soir, on joue avec Lila et Ja, qu'on connaît un petit peu parce qu'on a le même tourneur. Et on joue aussi avec Parsec, qu'on n'a jamais rencontré encore, mais on est très heureux de partager l'affiche avec eux. On a écouté, moi personnellement ça me plaît pas mal. Et aussi Théa, qui cartonne. Donc très hâte de voir ce que ça donne ce soir. La soirée est assez variée et je pense qu'il y en aura un peu pour tous les goûts. Donc, et avec une constante énergie dans tous les cas. Donc très curieux de voir ce que ça va donner ce soir.
Bah, si vous êtes à Rennes, bien sûr, venez dépasser le parvis Philippe Pascal où on était ici pour cette discussion avec Tanguy et Raphaël de Télépagaille. On va terminer avec un morceau extrait de Traction, le dernier EP. Hein, il est encore au dispo, il est tout frais, hein, sorti le 20 septembre. Il y a du merch sur ce EP-là.
Carrément, oui.
Il y a quoi, exemple, pour faire saliver à ceux qui vont venir
là. Bah là, on l'a sorti en CD, celui-là, en physique CD. Le Limbo était sorti en cassette. Et t-shirt classique.
Ouais.
Pas plus. Pas des trucs un peu plus fun, des boîtes de conserve ça. Avec.
Bah, le problème, c'est que en train, tu vas ramener les boîtes de conserve de 12 kilos d'haricots blancs.
Mais on en a vendu des caisses, ces boîtes de conserve, vraiment. C'était notre merch au moment de la sortie du clip, c'était fameux.
Bon, et bon, on salive d'avance. Bon, on vous retrouve tout à l'heure. Vous allez pouvoir entendre maintenant sur les radios Ferrarock le titre Docteur. C'est une histoire vraie?
Bah oui, est-ce que c'est grave? On verra. Hein.
On verra. Est-ce que c'est grave, docteur? À vous, les studios, on écoute donc ce titre de Télépagaille.
À fond les ballons sur la route, totalement ma boule. J'ai la glotte en compote. Le nez qui coule sur la façade, totalement malade. Je débarque au pied de l'hôpital. Pronostic vital engagé, comme si j'avais misé 200 boules sur un poney éclopé. Ma migraine est frénétique. Bonjour docteur, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que c'est grave docteur? Vais-je avoir le droit de rentrer chez moi? Est-ce que c'est grave docteur? J'ai si peur des piqûres. Est-ce que c'est grave docteur? Vais-je avoir le droit de rentrer chez moi? Est-ce que c'est grave docteur? Les mains qui tremblent dans la salle d'attente. Je fais preuve d'un courage à toute épreuve. Prêt pour l'examen, comme un cancre à l'école. Le doc revient avec des outils plein les mains. Il engloutit tous les patients sans arrêt. Y'a plus personne, c'est bien moi le dernier. Il me fixe comme le gibier d'un caniche enragé. Il va me dévorer, je crois que je suis plus malade. Est-ce que c'est grave docteur? Vais-je avoir le droit de rentrer chez moi? Est-ce que c'est grave, docteur? J'ai si peur des piqûres. Est-ce que c'est grave, docteur? Vais-je avoir le droit de rentrer chez moi? Est-ce que c'est grave, docteur? Entre, s'il te plaît. Dis-moi qu'est-ce qui t'arrive. Je vais t'ausculter. Allonge-toi là. Alors c'est où que ça fait mal? Ici, c'est pas normal. Redresse-toi et n'aie pas peur. Je vais chercher un cutter. Est-ce que c'est grave, docteur? Vais-je avoir le droit de rentrer chez moi? Est-ce que c'est grave, docteur? J'ai si peur des piqûres. Est-ce que c'est grave, docteur? Vais-je avoir le droit de rentrer chez moi? Est-ce que c'est grave, docteur?